Chapitre 32e. Son mari le premier lui conseilla, et moi-même, je la pressai de laisser un moment sa berline, de prendre un peu d'exercice. Elle connaissait le pays, et nous dit qu'en effet elle se sentait la force et l'envie de gagner, en se promenant, le pont de Montcourt, où elle ordonna à son cocher d'aller nous attendre. Elle ne voulut pas souffrir que ses femmes, qui suivaient dans une calèche, missent pied à terre pour l'accompagner. Nous quittâmes la grande route, nous descendîmes à travers le village de Fortmonville jusqu'à l'écluse de ce nom. La comtesse venait de refuser le bras de M. de Lignol et s'appuyait sur le mien. Nous marchions lentement sur la verte pelouse qui couvre en cet endroit les bords du canal. Toujours indisposée, ma chère Éléonore penchait de temps en temps sa tête qui venait reposer sur mon épaule et de temps en temps laissait échapper, avec un soupir tendre, une douce plainte. Son regard languissant, mais satisfait, semblait, en m'annonçant qu'elle connaissait la cause de son mal et qu'elle le chérissait, semblait, dis-je, solliciter mon amour plutôt que ma pitié. Et moi, je l'avoue, moins effrayé pour le moment des dangers de son état que ravi du bonheur d'être père, je contemplais avec plus de plaisir que de crainte l'altération de ce joli visage devenu plus joli par sa pâleur intéressante. Tous deux, entièrement occupés l'un de l'autre, nous ne pouvions rien voir du charmant paysage que M. de Lignol admirait. Tout à coup, un cri douloureux, un seul cri, parti d'une maison bourgeoise que je n'avais pas même aperçue, frappe mon oreille et vient jusqu'à mon cœur. Dieu ! Quelle voix ! Soudain, je m'élance. J'aperçois, à travers des barreaux qui me retiennent, j'aperçois à l'autre extrémité d'un grand jardin, sous une allée couverte, une jeune personne apparemment évanouie, que deux femmes emportent dans un pavillon assez éloigné, dont la porte aussitôt retombe sur elle. Je n'ai pu distinguer les traits de l'infortunée, mais j'ai vu ses longs cheveux bruns qui tombaient jusqu'à terre, j'ai vu cette taille enchanteresse qui ne peut appartenir qu'à elle. Ce cri de douleur, surtout, j'ai cru le reconnaître. Oui, j'ai cru pour la seconde fois entendre ce gémissement du désespoir, ce lamentable accent qu'elle ne put retenir lorsqu'au couvent du faubourg Saint-Germain, de barbares satellites m'empêchèrent de mourir dans ses bras. Cramponné sur la grille bien fermée que j'ébranle, que je voudrais renverser, je ne cesse de crier « Elle se trouve mal ! Elle se trouve mal !» Et j'entends à peine Madame de Lignol qui me supplie de faire attention qu'elle se trouve mal aussi. Une paysanne vient à passer qui, voyant mon inquiétude, me dit « C'est qu'elle est malade. Qui ? Cette demoiselle ? Son nom ? Je le voudrions bien, mademoiselle, mais je ne le savons pas. Ces femmes, qui sont-elles ? Ah oui, devine. Jugez donc, mademoiselle, qu'elles ne parlons pas comme nous autres, ces femmes. Comment ? Comment ? Dame, dame, je ne le savons pas. Comment, puisque notre curé, qui savons le latin tout comme son livre de messe, n'y comprend y tout, ni plus ni moins que ma poche ? Ça vous dégoise un baragouin que le diable n'y entendrait goutte. Y a-t-il des hommes dans la maison ? Par-ci par-là, mademoiselle. Quelquefois, j'en voyons un qui a l'air du père à tous. Il est vieux ? Pas vieux, si vous voulez, mais, dame, c'est mûr. Parle-t-il français ? Celui-là ? Oh, c'est bien pire. Ils ne parlons pas du tout. C'est, sous votre respect, un ours, mademoiselle. Quand j'approchons de sa tanière, ils avons l'air de vouloir nous avaler. Et puis, il y a un domestique aussi qui n'étions pas jeunes tout et qui jargonnons les roquois comme les autres. Depuis quand tout ce monde-là demeure-t-il ici ? Dame, y a ben quelque part comme ça 3-4. Madame de Lignol, hors d'elle-même, ne la laissa point achever. Taisez-vous, bavarde, passez votre chemin. Et vous, mademoiselle, comptez-vous rester là jusqu'au soir ? Jusqu'à ce que nous soyons perdus ? Le comte, qui, très heureusement, ne comprend pas le véritable sens de ces paroles équivoques, jusqu'à ce que nous soyons perdus, lui dit en vain, pour la rassurer, qu'il serait impossible que nous nous perdissions, même pendant la nuit, par un chemin frayé. Il le lui dit en vain, elle s'inquiète, elle se lamente, elle s'écrie « Mon ami, ne m'entendez-vous pas ? Cruel ! Pourriez-vous ainsi m'abandonner, dans l'état où je suis ? Sera-ce la pitié des passants qu'il faudra que j'implore ?» Je regardai Madame de Lignol et je frémis. Ce n'était plus cette intéressante figure où le vif plaisir combattait la faible douleur. Chacun de ses traits semblait renversé. La brûlante colère brillait dans ses yeux. La pâle terreur décolorait son front. Ses genoux chancelants ne la portaient qu'à peine. Elle frémissait de tous ses membres. je presse dans mon bras gauche le bras droit de la comtesse. De la main droite, je saisis la main gauche de son curieux mari, et sans examiner si l'un veut me suivre, si l'autre en a la force, je les entraîne tous deux, d'une haleine, à plus de 200 pas de la périlleuse maison. Là, je m'arrête. Incertain, je me retourne, et mon triste regard se porte au lieu que je fuis. Hélas, une forêt de peupliers, peut-être favorable, me cache les murs où je laisse au désespoir ce que j'ai de plus cher au monde. Mon cœur alors se serre. Je n'ai plus besoin de cacher mes larmes, car je ne peux plus en verser. Cependant la comtesse, qui prétend qu'une marche rapide lui fait du bien, me presse de l'aider à reprendre sa course. Il me faut en même temps soutenir ma malheureuse amie, à chaque instant prête à tomber, dissimuler mon trouble extrême, et répondre d'une manière suffisante à M. de Lignolles, qui se traîne sur nos pas en me questionnant. Nous arrivons à Montcourt. La comtesse, excédée de fatigue, se jette dans son carrosse et n'ouvre la bouche que pour recommander à son cocher de faire la plus grande diligence jusqu'à Fontainebleau, où nous devons prendre des chevaux de poste. M. de Lignolles, essoufflé, haletant, pour mieux goûter le repos, garde quelque temps le silence. Je puis enfin librement sonder les plaies de mon cœur et me livrer à mes réflexions déchirantes. Quelle nuit horrible avant que nous fussions à Paris, où nous n'arrivâmes qu'à 3 heures du matin. La comtesse, ayant à peine permis à son mari d'entrer dans son appartement, se hâte de renvoyer aussi ses femmes et, restée seule avec moi, vint tomber dans mes bras. Faublas, ne mentez pas. N'est-ce pas elle que vous avez retrouvée ? Oui, mon ami, c'est elle. Que je suis malheureuse. Répondez, se pourrait-il que vous eussiez le dessein de m'abandonner ? T'abandonner, mon Éléonore ? Et le moyen de le pouvoir ? Le moyen d'être aimé de toi sans t'adorer, sans brûler du désir de te revoir ? N'est-il pas vrai, Faublas ? C'est précisément ce que je me dis quand je pense à toi, et j'y pense sans cesse. Ainsi, mon bon ami, tu comptes revenir de Compiègne ici sans t'arrêter nulle part, sans aller ailleurs ? Sans aller ailleurs, et ma femme ? Eh bien, votre femme, ma femme, qui depuis si longtemps... Ils veulent aller rejoindre ? Ma femme, je n'écoute rien. Vous voulez m'abandonner ? Je vous conserverai, malgré vous, oui. J'emploierai jusqu'à la violence. Nous allons ensemble à Compiègne, c'est une chose résolue. Et quant à Fromonville, si je ne puis vous empêcher d'y retourner, j'espère que vous ne pourrez pas non plus m'empêcher de vous y suivre. Au reste, vous n'y êtes pas encore. Un bon coup d'épée pourra bien ne pas vous permettre d'y courir si vite à Fromonville. Grand Dieu, qu'ai-je dit ? Non, Faublas, non. Tiens, j'aime encore mieux que tu ne sois pas tué. Mon ami, défends-toi bien. Nous verrons après qui de Sophie ou de moi l'emportera. Défends-toi de toutes tes forces. Ne te laisse pas blesser comme dans ton premier combat. Tue-le plutôt. Oh, je t'en prie, tue-le. Mon ami, je serai là. Je t'aiderai de mes conseils. Je t'encouragerai par mes cris. Tu combattras sous mes yeux, devant moi, devant la mère de ton enfant. Tu seras invincible. » Elle était à mes genoux qu'elle embrassait, qu'elle inondait de ses larmes. Le plus insensible des hommes n'eût pu lui résister. Je promis tout ce qu'elle voulut. Quoique nous dussions partir avec l'aurore, nous ne pûmes nous décider à rester debout jusqu'à son lever. Madame de Lignolles avait besoin de consolation autant que de repos. Nous nous couchâmes. Je fis heureusement succéder aux pénibles agitations d'une journée trop longue, les agitations douces d'une trop courte nuit, et la comtesse, exténuée de tant de fatigue, finit par s'endormir profondément. C'était là ce qu'attendait son malheureux amant, à qui la tendre pitié venait d'arracher un mensonge et que l'impérieuse nécessité forçait à la perfidie. Enfin, le jour fatal va luire. À la faible clarté de son premier rayon, je soulève avec précaution le drap qui m'enveloppe. Par des mouvements égaux et mesurés, je me glisse jusqu'au bord du lit, qui reste muet. Déjà mes pieds touchent le parquet, ou plutôt l'effleurent à peine. La couverture doucement retombe, et sur cette couche où l'amour heureux soupirait tout à l'heure et maintenant repose encore, l'amour abandonné va bientôt gémir. Je me suis habillé lentement parce qu'il a fallu m'habiller sans bruit. Cependant, me voilà déjà prêt. Je vais partir. Mon malheureux sort voulut que je rencontrasse dans la cour M. de Lignolles, qui déjà montait en carrosse. « Ah, si matin ?» me dit-il. « Oui, monsieur, je sors. »«
Quoi ? Sans la comtesse ?»«
Elle est fatiguée, elle dort. Elle sait que j'ai affaire pour 24 heures. »«
Seule, à pied ?»«
Je vais prendre un fiacre. »«
Non, mademoiselle.
Je vous conduirai où vous avez affaire. » »«
Mais monsieur, cela va vous déranger, vous êtes pressé. »«
Qu'importe, permettez-moi, je ne le souffrirai pas. »
Pendant que je conteste avec monsieur de Lignol pour échapper à ses cruelles politesses, la comtesse peut se réveiller et faire un éclat terrible. Cette réflexion me détermine. Je me jette dans la maudite voiture. Monsieur de Lignol y monte et me prie de dire à son cocher où je veux qu'on me mène. Ma première pensée fut pour le couvent de ma sœur, mais tout bien examiné, je crus qu'il valait mieux me faire conduire chez madame de Font-Rose. Nous arrivons à la porte de la baronne. Je descends de voiture, et comme j'allais entrer dans l'hôtel, M. de Bellecour en sortait incognito. Il me reconnaît, il s'écrie « Enfin, vous voilà donc ! Il faut donc que ce soit le hasard !» Tremblant, je l'interromps. « Mon père, ce monsieur que vous voyez dans son carrosse, j'ai l'honneur de vous le présenter. C'est le comte de Lignol, le mari de cette jeune dame chez qui... » Le comte qui nous a entendus descend à la hâte, se jette au cou de mon père, et le félicite d'avoir une fille pleine d'esprit à qui l'on ne peut donner une charade qu'elle ne devine. Il ajoute « Nous vous la rendons pour 24 heures, mais nous espérons que demain vous nous ferez le plaisir de nous la ramener vous-même. »
Monsieur de Bellecour s'en défend. Monsieur de Lignol insiste. « Il faut, dit-il, que mademoiselle de Brumont revienne, car ma femme est malade. »
Le baron, qui déjà s'impatiente, répond « J'en suis fâché, mais... »
« Mais, reprend l'autre, il ne faut pas que cela vous alarme, ce n'est rien. Une indisposition, un mal de cœur, cela vient, je crois, de ce qu'elle a fait tous ces jours-ci, trop d'exercice, avec mademoiselle votre fille, tenez, qui est forte, alerte, vigoureusement constituée. La comtesse n'a pas encore le tempérament si formé. Au reste, comme je vous dis, ce n'est rien. Pourtant, cela deviendrait sérieux si mademoiselle de Brumont ne revenait pas, parce que ma femme, qui l'aime à la folie, en prendrait du chagrin. Son âme s'affecterait, monsieur, et quand l'âme d'une femme s'affecte, votre serviteur, il n'y a plus personne.
Monsieur, je vous répète que je ne puis rien promettre.
Je ne vous quitte pas que vous ne m'ayez donné votre parole, mais de grâce.
Ah, je vous en supplie, monsieur de Brumont.
Le baron, emporté par sa vivacité, s'écria « Eh, monsieur, laissez-moi en repos !»
Puis il me jeta un regard terrible et me dit « N'est-il pas bien affreux que je sois sans cesse compromis ? Je frémis, je me précipite dans ses bras.
Oh, mon père, souvenez-vous de la porte Maillot. » Ces mots lui rendirent assez de sang-froid pour qu'aussitôt il s'empressait de faire beaucoup d'excuses et de remerciements à M. de Lignol. Cependant, celui-ci demeurait toujours fort étonné de la colère que le prétendu M. de Brumont venait de laisser paraître. Pour dissiper tous ses soupçons à cet égard, je me crus obligé de lui faire tout bas, et d'un ton très mystérieux, cette insidieuse confidence. « Madame de Font-Rose vous a dit que certaines affaires de famille forçaient mon père à vivre inconnu dans ce pays-ci, et vous voulez qu'il vienne vous voir, et vous vous avisez de l'appeler tout haut par son nom ?»«
Ah ! Que je suis fâché de mon étourderie !» dit aussitôt le comte au baron.
« Et moi de ma vivacité !» répondit celui-ci.
« Vous vous moquez ?» reprit M. de Lignol, c'est moi qui ai tort.
Mais aussi, pourquoi refuser de rendre mademoiselle votre fille à ma femme ?
Allons, puisque vous ne pouvez pas la ramener vous-même, promettez du moins de nous la renvoyer.
Je promets, répliqua M. de Bellecour, de faire en sorte que vous n'ayez pas à vous repentir des honnêtetés dont vous me comblez.
Voilà qui est dit. Je pars content. Mais vous n'avez pas de voiture. Voulez-vous que je vous reconduise chez vous ?
Ce fut moi qui pris la parole.
« Bien obligé. Il faut que je parle à la baronne. J'espère que mon père voudra bien rentrer chez elle avec moi. Nous avons quelque chose de particulier à lui dire. »
Il partit. Quand sa voiture fut un peu loin, nous nous jetâmes dans un fiacre qui, nous conduisant de l'extrémité du faubourg Saint-Germain à la place Vendôme, me laissa tout le temps de retomber dans mes rêveries. Uniquement occupé du désespoir où devait être ma femme hier délaissée, où serait bientôt ma maîtresse ce matin trahie, j'avais l'air d'écouter attentivement les sages représentations que M. de Bellecour,
en ce moment, perdait. De vains sons frappaient mon oreille. Je ne fus tiré de ma léthargie que par ces derniers mots de la longue réprimande. « Le malheur de Sophie, que vous oubliez. »«
Non, je ne l'oublie pas, non. » »«
Quant à son malheur, il est grand, sans doute, mais il ne durera pas longtemps. »«
Demain, oui, demain. » »«
Et vous, mon père, dès aujourd'hui... »« Ah, pardon, je ne sais ce que je dis. »« Mon père, vous descendez ici ?»«
Vous allez voir Adélaïde ?»«
Oui, monsieur. »«
Moi, je ne me présenterai point au parloir dans le costume où je suis. » Je vais rentrer à l'hôtel, changer d'habit et puis...
Adieu, mon père.
Oh, vous que j'aime autant qu'elle. Adieu.
Comment, mon ami? Ne vas-tu pas venir me rejoindre?
Vous rejoindre?
Ah oui, vous rejoindre. Mon père, embrassez-moi donc. Pardonnez-moi tous les chagrins que je vous donne.
De tout mon cœur, mon ami, mais je t'en prie.
En vérité, je désirais devenir sage, mais je suis entraîné.
Vous voulez bien embrasser ma sœur pour moi, n'est-il pas vrai?
« Tout à l'heure. Tu feras ta commission toi-même. »«
Oui, mon père. À demain. »«
Que me dit-il?
Deviens-tu fou?
Il est vrai que je parle sans réflexion.
Adieu.
Je suis fâché de vous quitter.
Adieu.
Dans une heure, vous aurez de mes nouvelles. »
J'arrivai à l'hôtel.
Jasmin faisait sentinelle à la porte. Le faquin sourit de me voir demoiselle et me dit que Madame de Montdésir a déjà envoyé deux fois ce matin pour s'informer si j'étais revenu de la campagne, et pour recommander qu'on me priât, dès que j'arriverais, de courir chez elle.
Bon, cela s'arrange avec mes projets.
Vite, Jasmin, un coup de peigne.
Un homme, mademoiselle?
Oui.
Ce ne fut pas long.
Jasmin, une plume, de l'encre, du papier,
promptement.
Bien.
Pendant que j'écris, dépêche-toi d'apprêter tout ce qu'il me faut pour m'habiller de la tête aux pieds.
Un homme, mademoiselle?
Et sans doute... Ensuite, tu prépareras mon cheval de selle et le tien.
J'accompagnerai monsieur.
Oui.
Tant mieux.
Je m'en vais me divertir.
Nous allons sûrement faire quelques farces.
Jasmin, tu me donneras mon épée.
Ah, tant pis.
Tant pis si c'est pour nous battre, car nous tuerons quelqu'un.
Ce pauvre petit marquis, je crois toujours le voir, là, pan, tombé par terre.
Aussi, c'est bien sa faute, car nous le ménagions.
Ça faisait trembler...
Puisque celui-là n'est pas mort, il fallait qu'il eût l'âme chevillée dans le ventre.
Jasmin, que diable!
Allez donc, nous n'avons pas un moment à perdre. Et surtout, ne t'avise pas de jaser.
J'aimerais mieux être pendu, monsieur, que de vous trahir.
Cependant, j'écrivais à mon père. Je lui donnais, sur la retraite de Sophie, tous les renseignements nécessaires. Je m'habillais, je cachetais ma lettre. Un homme sûr fut chargé de la porter au couvent d'Adélaïde, et de la remettre à monsieur de Bellecour. Jasmin reçut l'ordre de m'attendre à la porte Saint-Martin, et je courus chez madame de Montdésir. J'y trouvai, non pas madame de B, mais le vicomte de Florville.
« Enfin, dit-il, le voilà. »
Je m'excusai de l'avoir fait attendre, et je remerciai la marquise de m'avoir envoyé chercher au moment même où je m'inquiétais de savoir comment je me procurais le bonheur de l'entretenir seulement pendant quelques minutes. J'ajoutai que je rapportais de la campagne une grande nouvelle.
« Quoi donc ?
J'ai vu Sophie. »
Elle pâlit, elle s'écria. « Il n'est pas possible !»
En deux mots, je lui appris quelle retraite M. Duportail s'était choisi et comment un heureux hasard me l'avait fait découvrir. La marquise m'écoutait d'un air interdit. Je la suppliai de vouloir bien envoyer tout à l'heure à Fourmonville des gens chargés de veiller sur Duportail et de le suivre partout. Car je tremblais que mon beau-père n'eût encore l'intention et ne trouvât le moyen d'échapper à M. de Bellecour.
« Comment ? »
me demanda-t-elle d'une voix altérée.
« N'y allez-vous pas vous-même ? »
« Je ne le puis. Une affaire importante m'appelle ailleurs. » Elle reprit d'un air plus calme et d'un ton plus ferme.
« Quoi ? Madame de Lignol a-t-elle déjà tant d'empire ?
Ce n'est pas Madame de Lignol qui m'arrache à Sophie. Un devoir indispensable.
Achevé, ne puis-je savoir ?
Croyez, ma chère maman, que je ne me console pas d'avoir un secret pour vous.
Chevalier, c'est assez me dire qu'il y aurait de l'indiscrétion de ma part à pousser les questions plus loin.
Je veux bien penser que je n'ai point à me plaindre de tant de réserves. Je vais donner les ordres les plus pressants pour que Duportail soit gardé à vue dès ce soir et ne puisse faire un pas dont je ne sois instruite sur le champ, moi ou la petite Montdésir en mon absence,
ajouta-t-elle avec un profond soupir. En votre absence, maman, vous quittez Paris ?
Tout à l'heure, mon ami.
Quel malheur pour moi, que je suis fâché de vous perdre, dans ce moment surtout où vos conseils et vos secours m'eussent été si nécessaires.
Où donc allez-vous ?
À Versailles, d'abord.
À Versailles, avec cet habit ?
Maman, c'est, ce me semble, le frac anglais du charmant vicomte qui m'a donné son nom, ce frac que vous embellissiez le jour que nous fûmes ensemble à Saint-Cloud.
Cela se peut, dit-elle en affectant de n'en être pas sûre.
Oui, je crois que oui.
Et de Versailles, vous partez pour ?
Chevalier, je me vois à regret, forcé de répéter vos propres expressions. Croyez que je ne me console pas d'être obligé d'avoir un secret pour vous.
Mais encore, ce voyage doit-il être bien long ?
Peut-être, mon ami, peut-être, dit-elle d'une voix tremblante. Et c'est pour cela qu'avant de l'entreprendre, j'ai vivement souhaité de vous faire mes adieux.
Vos adieux, maman ?
Ma chère maman, vous m'inquiétez. Vous paraissez triste.
De grâce, confiez-moi.
Elle m'interrompit.
Respectez mon secret.
Je n'ai point tâché de surprendre le vôtre. Je ne veux pas même le deviner. Je ne le veux pas.
Allez, Faublas,
allez et revenez content, s'il est possible.
Je ne puis m'expliquer.
Je ne puis dire quel événement se prépare.
Quelle crainte m'agite. Quel vœu j'ose former.
Mais mon ami, mon aimable ami, qu'il sera cruel de ne se plus voir.
Grand Dieu, vous gémissez, vous avez les larmes aux yeux.
Adieu, Faublas, trop cher enfant, adieu.
Je ne vous quitte qu'avec douleur.
Souvenez-vous-en si quelque grand malheur arrive. N'oubliez pas que la marquise de B vous perdit par une trahison et devint elle-même la victime d'un lâche qui se disait votre ami.
N'oublie pas surtout qu'elle ne cessa de vous conserver l'amitié la plus tendre, répéta-t-elle en me serrant la main.
Elle me donna un baiser et m'échappa.
Je demeurai confondu de ce que je venais d'entendre, et dans le premier moment de ma surprise, je répétai quelques-unes des expressions qui venaient d'échapper à Madame de B.
Allez et revenez content.
Je ne puis dire quel vœu j'ose former,
qu'il serait cruel de ne se plus voir.
Il n'est plus douteux que Madame de B sait que je vais me battre et connaît mon ennemi.
Quels vœux j'ose former ?
Ces vœux, elle ne pourrait, sans crime, les exprimer clairement. Mais peut-être suis-je excusable, moi, de chercher à pénétrer le secret de son cœur, sa pensée la plus cachée.
Qu'il serait cruel de ne se plus voir ?
Vous me reverrez, Madame de B, vous me reverrez, n'en doutez pas. Je sortirai vainqueur d'un combat dont vous êtes le prix.